Radio Kapi.
De nouvelles attaques des miliciens de la CODECO signalées hier vendredi dans plusieurs villages en Ituri. Certaines sources indiquent que ces miliciens ont réagi pour venger la mort d'un opérateur économique membre de leur communauté. Il aurait été tué par des éléments du groupe d'autodéfense Zaïre. L'AFEC demande au gouvernement de revenir sur la mesure concernant des nouveaux prélèvements à opérer à charge des opérateurs de télécommunications sur les appels SMS et Internet. Cela risquerait, d'après l'AFEC, d'entraîner l'augmentation des prix des services qui sont offerts aux consommateurs. Enfin, un atelier sur les mécanismes de protection des sites de déplacés dans la province de l'Ituri, qui sont souvent la cible d'attaques des hommes en armes, a été organisé à Bounia par le HCR. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Denis Ouley, chef de bureau du HCR en Ituri. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, plusieurs villages ont été la cible des attaques de miliciens du groupe armé de la CODECO, URDPC, dans la journée d'hier vendredi. Des sources concordantes avancent le bilan d'au moins 3 morts, plusieurs personnes blessées, avec des habitations incendiées. D'autres sources indiquent que ces miliciens ont réagi pour venger la mort d'un opérateur économique membre de leur communauté. Il aurait été tué par des éléments du groupe d'autodéfense Zaïre. À certains endroits, des militaires des FARDC sont intervenus pour limiter les dégâts, renseignent nos sources. Récit des faits avec Jean-Claude Lokidili.
Tout est parti de l'assassinat vendredi dans le groupement d'Eidja d'un commerçant qui regagnait son village d'une moto avec ses marchandises. Il aurait été intercepté par un groupe de personnes identifiées par certaines sources comme étant des membres du groupe d'autodéfense Zaïre. Ces derniers auraient à leur tour réagi pour manifester leur colère après avoir été chassés de leur champ par des assaillants de la CODECO. Pour venger la mort de cet opérateur économique membre de la communauté, les rebelles de la CODECO ont attaqué plusieurs villages, dont Dar, sous l'axe Boulé-Largou. Ils ont incendié des maisons et auraient tué une personne. Quelques temps après, notre groupe a attaqué le village Lala, où se trouve également érigé un site des personnes déplacées. Ici, on signale la mort de quelques personnes dont le nom n'est pas encore connu. Contacté, l'administrateur militaire du territoire de Djougou promet de donner le bilan définitif de ces attaques après la réunion de sécurité qu'il préside en ce moment. Pendant ce temps, la société civile de Djougou exhorte les uns les autres à cesser avec des actes de provocation. Je indique que ce sont généralement des personnes vulnérables qui sont victimes de ces agissements. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Entre-temps, plusieurs incidents sécuritaires avec mort d'homme sont aussi signalés cette semaine dans quelques entités du territoire de Massissi. C'est principalement dans les secteurs de Katoï et dans la chefferie de Bachali. Les groupes armés sont mis en cause pour la majorité des victimes. La société civile appelle à l'intervention des autorités. Denise Lokesso.
Après l'attaque jeudi contre les sites de déplacés de Kachouga et Kijagati, ayant fait 7 morts et 2 blessés parmi les déplacés, un policier a été assassiné à Kikoma ce vendredi par des bandits armés inconnus. C'est dans le groupement Nyamaboko 2, en secteur de Katoï. Une autre personne a été décapitée à la machette par des hommes armés dans le village de Bishangé. C'est dans le même secteur de Katoï, en groupement Mufunishanga. Ce même vendredi, un militaire FRDC a été également abattu par des porteurs d'armes incontrôlées à la barrière d'Enteko, cette fois-ci dans la chefferie de Bachali. Alors qu'on signale dans le village Lundé, en groupement Matanda, un civil a été blessé par balle tirée par un policier. La société civile territoriale de Massissi, qui déplore tous ces cas malheureux, parlait d'une dizaine de personnes tuées dans le Massissi dans l'intervalle de 2 jours seulement. Les présidents de cette structure dénoncent avec fermeté cette hausse des taux de criminalité. Télésphore Mitondeke exhorte les autorités congolaises à renforcer les mécanismes de protection des civils et de leurs biens le plus urgent possible. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Autre nouvelle, le couple royal belge est attendu demain dimanche 12 juin à Bukavu, chef de la province du Sud Kivu. En perspective de cette arrivée, le maire de la ville de Bukavu appelle les usagers des routes de la ville à observer et respecter les consignes de la police nationale congolaise pour faciliter le passage du couple royal et toute sa délégation sur son itinéraire allant de l'aéroport de Kavumu jusqu'à l'hôpital de Panzi, et ce, à aller comme au retour. Le reste des routes ne sont pas concernées par cette mesure. On écoute le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi, au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Il ne s'agit pas de nouvelles mesures. Il s'agit de l'assouplissement des mesures que nous avons prises compte tenu du contexte social, contexte politique et économique et même culturel. L'autorité provinciale, son excellence Théon Wadi Djekassi, gouverneur de province, nous a instruit d'assouplir la mesure qui était très rigide d'interdiction de circulation. Alors il nous a demandé de porter à la connaissance de la population que la circulation sera normale. Toutefois, les policiers seront postés à toutes les entrées dans des coins stratégiques pour donner des consignes à la population. Alors il est demandé à la population d'observer et de respecter les consignes de la police. La circulation sera normale, mais la police aura des consignes qu'elle va communiquer à la population. Alors il est question de rester à l'écoute de la police qui va réguler la circulation.
Affaire, nouvelle taxe dans le secteur des télécommunications. Dans une mise au point rendue publique cette semaine, la Fédération des entreprises du Congo FEC confirme l'instauration par le gouvernement de nouveaux prélèvements à opérer à charge des opérateurs des télécommunications sur les appels, les SMS et Internet. Par ailleurs, la FEC demande au gouvernement de revenir sur cette mesure qui risque d'entraîner l'augmentation des prix de services qui sont offerts aux consommateurs. D'autres détails avec vous. Pierrot et la Messie.
Dans cette mise au point, la FEC précise qu'elle n'a aucun cas affirmé que le gouvernement et l'ARPTC s'apprêteraient à instaurer de nouvelles taxes dans les secteurs des télécommunications. Mais la FEC a plutôt confirmé l'instauration par le gouvernement de nouveaux prélèvements à opérer à charge des opérateurs des télécommunications sur les appels SMS et Internet, et dont les incidences seront répercutées sur les tarifs applicables en termes d'augmentation des prix des services qui sont offerts aux consommateurs. La FEC indique toujours à travers ses communiqués qu'elle s'est référée au décret signé par le Premier ministre Samalou Kondé le 9 mars 2022 et publié au journal officiel, lesquels décrets fixent les modalités des calculs et les taux des revenus des prestations de l'ARPTC notifiés aux opérateurs de la téléphonie mobile le 6 avril 2022 par l'ARPTC. Pour la FEC, les opérateurs seront dans l'obligation d'intégrer ces nouvelles charges dans leur structure des prix respectives, ce qui pourra conduire non seulement à la détérioration du climat des affaires, mais aussi à aggraver les conditions de vie précaires des Congolais. La FEC, qui invite les gouvernements, tout comme la RPTC, au dialogue et à la consultation avec tous les opérateurs, demande également au gouvernement de revenir sur cette mesure.
À Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, les vendeurs du marché central de Mampuya dénoncent l'augmentation du prix du ticket à payer pour les étalages. Selon eux, les autorités ont revu cette taxe à la hausse de 200 à 500 francs congolais par jour. Certaines vendeuses estiment que ce nouveau montant à payer est trop élevé par rapport aux petits commerces qu'elles exercent. Elles sollicitent des autorités attitrées la baisse de prix de cette taxe. Le maire de la ville de Bandundu, Ephrem Kinda, à Bouilly, précise qu'aucune majoration n'a été effectuée par rapport à cette taxe. À l'en croire, la taxe des étalages au marché est maintenue toujours à 200 francs congolais. Irène Bouma.
Pour certaines vendeuses trouvées au marché central situé dans la commune de Disasi à Bandundu-Ville, payer 500 francs pour la taxe des étalages communément appelée ticket, c'est trop demandé. Elles sollicitent le maintien de cette taxe à 200 francs congolais comme d'habitude. La taxe était à 200 francs congolais, mais maintenant c'est 500 francs. Vraiment c'est trop pour nous. Comme moi, j'ai amené la marchandise de 4000 francs congolais. Dois-je encore enlever 500 francs pour la taxe? Que les autorités revoient cette situation. Ils nous ont dit que la taxe revient maintenant à 500 francs. Nous refusons cela parce que nous n'avons pas assez de recettes. À la suite de cette augmentation des taxes, cette vendeuse de légumes dit avoir fui les marchés et préfère vendre en ambulatoire. Je vends toujours au marché, mais aujourd'hui je vends dans la rue parce que le prix du ticket a augmenté. 500 francs c'est trop. Réagissant à ces allégations, le maire de la ville de Bandundu, Ephrem Kinda, fixe l'opinion.
Moi, je ne peux pas majorer la taxe étalage. Ceux qui racontent des nouvelles pareilles, ce sont des fausses nouvelles. Et nous n'avons pas majoré. La taxe reste toujours à 200 francs. N'est pas payé 500 francs.
Ephrem Kinda met en garde toute personne qui tenterait d'exiger la somme de 500 francs au vendeur pour la taxe des étalages au marché. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, il y a de cela quelques quelques jours qu'il s'observe une hausse des prix de carburant dans la ville de Kindu, que ce soit aux stations-service ou chez les revendeurs appelés communément Kadhafi. Cette hausse des prix du carburant a entraîné le prix du transport qui a tout simplement doublé. Le président des pétroliers du Maniema parle de la rupture des stocks à cause de l'insécurité. Reportage Florence Kizalunga.
Le carburant s'est négocié IAP à 4 500 francs les litres, mais il s'observe une augmentation brisque. Un litre revient à 5 000 francs au niveau des différentes stations-service. Une hausse qui a des conséquences sur la vie économique de la population. Témoignage.
Pour nous les étudiants, c'est compliqué. Pour arriver à l'université, on paye 1 000 francs. Mais comme on a doublé, ça devient compliqué pour nous.
Ce qui est étonnant est que les trajectoires restent les mêmes. Nous sommes un peu surpris et que quand on se réveille, on trouve le prix du transport revit toujours à la hausse.
Souvent, nous nous posons des questions. On double le prix et les autorités sont là, ne disent rien du tout.
Les taximens de leur part se justifient en ces termes.
Oui, le prix de la course, c'est 1 000 francs maintenant parce que nous avons constaté comme il y a la hausse du prix du carburant dans le marché. Et quand on prend pour 500 francs, ça ne fait absolument rien. Alors, nous aussi, nous avons jugé et aussi les prix du coût du transport.
Le président des pétroliers appelle la population au calme car d'ici là, la situation sera décantée. Ali Nazareth.
Ça bloque au niveau de Kisangani, il n'y a pas de stock, c'est là que nous approvisionnons. Kisangani est ravitaillé par Kinshasa. Kinshasa aussi n'a pas de stock. Kenya a des stocks, mais on a un problème d'insécurité entre Kisangani et Kenya. C'est ce qui fait Kisangani lui-même est un reptile complet de stock.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, contentieux électoral opposant à M. Tony Kapalata, gouverneur élu de la province de la Tchopo, à Mme Madeleine Nikomba au Conseil d'État. La notabilité de la province de la Tchopo et de l'ensemble de l'espace grand oriental réuni à Kinshasa dit se féliciter de la bonne direction prise par le ministère public hier vendredi en déclarant recevable et fondée la requête en interprétation et correction d'erreurs matérielles introduite par M. Tony Kapalata et qui a demandé au juge de le confirmer gouverneur de province. Cette structure l'a fait savoir hier à travers une déclaration parvenue à Radio Okapi. On écoute un extrait de cette déclaration lue par Eric Nama. Il est au micro d'Alain Irung.
Nous nous félicitons de la bonne direction prise par le ministère public qui a déclaré recevable et fondée la requête en interprétation et correction d'erreurs matérielles introduites par M. Tony Kapalata Maloa, candidat élu gouverneur de province et qui a demandé de le confirmer gouverneur de province. Nous invitons le juge du Conseil d'État à dire à son tour le bon droit en vérité et en justice. La province de la Tchopo, tout comme l'ensemble de la Grande Orientale, désormais engagée sur la voie de la reconstruction de sa dignité, n'a pas besoin de divisions, de querelles et de conflits inutiles, quelle que soit leur provenance. Bien au contraire, elle a besoin de paix, d'unité et de cohésion de ses fils et filles.
Et puis cette nouvelle, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral, FMMD, a remporté les prix de l'innovation 2022 décernés par le HCR à Genève en Suisse. Ce prix couronne les efforts des ONG qui défendent et protègent la dignité des femmes et jeunes filles. Nathalie Kambala, directrice pays de la structure, dédie ce prix aux survivantes de violences sexuelles dans la région du Kasaï. Elle est dit au micro de Vanessa Kongolo.
Je remercie le HCR pour le prix prestigieux d'innovation 2022 qu'il a décerné à notre structure. Cette reconnaissance est le couronnement des efforts que notre structure a fournis pour la protection et la défense de la dignité de la femme et de la jeune fille. Je suis vraiment comblée de joie d'avoir raflé pour la première fois ce prix en tant que représentante de la RDC et du Kasaï central en général. Je rends hommage à Dieu d'abord. Et tout particulièrement, je dédie ce prix d'innovation 2022 à toutes les survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre en particulier et toute la population de la région du Kasaï en général.
Pour la 4e édition de ce prix, le HCR avait lancé un appel à manifestation pour les structures dirigées par les femmes impliquées dans la promotion des droits des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation de la femme. Sur base d'un critérium, environ 460 pays avaient postulé pour l'offre.
Actualité internationale.
La proposition de loi constitutionnelle en Centrafrique en passe d'être jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale, selon ce que préconise le secrétaire général de l'Assemblée dans une note de synthèse qui apporte des précisions sur ce projet. La révision qui ferait sauter les verrous du nombre de mandats présidentiels pourrait entrer dans le processus législatif. Celui qui attire le plus l'attention est bien sûr la suppression de la limitation du nombre de mandats du président. Cette disposition permettrait à Faustin Archange Touadéra d'en briguer un troisième en 2025. Il y a aussi l'insertion de la fonction de vice-président, une nouveauté, ainsi que de modifications indéfinies des critères d'éligibilité et la modification de composition de la Cour constitutionnelle et du Sénat. Celui-ci n'existe pas encore. Enfin, la création d'une chambre de la chefferie traditionnelle.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Denis Ouley, chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en Ituri. Cette agence a clôturé jeudi à Bounia un atelier de 2 jours sur les mécanismes de protection des sites de déplacés dans la province, sites qui sont souvent la cible d'attaques des hommes armés. Denis Ouley revient également sur la responsabilité du HCR concernant l'amélioration des conditions de vie des déplacés dans leurs sites. Il s'entretient ici avec Ezekiel Mouzalia. Suivez.
Denis Ouley, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux que vous faites de la situation des déplacés dans la province de l'Ituri actuellement?
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les déplacements sont fonction du caractère cyclique de la crise qui prévaut ici dans la province. Depuis 2017 déjà, on a commencé à voir de nombreuses personnes déplacées suite au début du conflit. De ce fait, on est aujourd'hui à 1 900 000 personnes déplacées dans la province, qui sont principalement, je veux dire, à 90% dans les communautés d'accueil, dans les familles de village. Parmi ces 1 900 000, on a à peu près 320 000 personnes déplacées qui sont dans les sites de déplacés. Et dans la province, on en a 64 sites de déplacés qui sont dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Alors, en termes d'état des lieux, ce sont tous des personnes qui restent encore dans le besoin et pour la majorité d'entre ces personnes, elles se sont déplacées et redéplacées déjà plusieurs fois en fonction des attaques. En termes d'état des lieux, la situation reste vraiment critique en termes de sécurité, mais aussi en termes de besoins qui ne cessent de s'augmenter.
Certains sites de déplacés sont de plus en plus la cible d'attaques d'hommes en armes. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour la protection de ces sites?
C'est vrai, les sites de déplacés sont victimes d'attaques des hommes en armes, où on a eu à déplorer de nombreuses personnes qui ont été tuées, paix à leurs âmes. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on est dans un processus de plaidoyer pour une sécurisation forte de ces sites de déplacés. L'une des actions qu'on fait déjà, c'est de travailler avec le gouvernement provincial et de travailler avec les autres acteurs humanitaires sur d'abord le respect du caractère civil et humanitaire de ces sites. Question de comment faire pour mieux protéger les personnes déplacées qui sont dans ces sites. Ce qu'on fait maintenant aussi, c'est le plaidoyer avec soi, les autorités gouvernementales, que ça va participer aussi au renforcement des questions de sécurité. L'autre aspect qu'on fait pour protéger ces sites aussi, c'est de travailler beaucoup avec la MONUSCO, à travers la section POC, pour qu'on puisse identifier tous les sites d'abord, mais identifier les sites qui sont à risque et de sorte à ce que s'il y a des alertes, qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible.
Vous parlez du caractère civil et humanitaire des sites des personnes vulnérables, c'est quoi au fait?
Et ceux qui viennent dans les sites, ils n'ont probablement pas eu les opportunités de rester dans les familles d'accueil. Donc, ils sont dans les sites pour avoir tout ce qui est sécurité et dignité. Donc, en venant dans les sites, la sécurité qu'ils croyaient avoir, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de sécurité dans les sites. Parce que les sites qui devaient être protégés sont attaqués et ces personnes déplacées qui viennent chercher sécurité dans les sites sont tuées. À un caractère civil, parce que c'est un site des déplacés, pour qu'ils aient accès à l'assistance humanitaire qu'ils n'ont pas pu avoir pendant leur déplacement. Il faut que tout le monde, et le gouvernement provincial, et les acteurs humanitaires, mais aussi les partenaires, travaillent à maintenir ce caractère civil. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des incursions d'hommes en armes dans les sites, il y a des attaques sur les sites, donc c'est principalement pour ça que nous faisons faisons toutes ces sensibilisations pour que tout le monde sache que les sites ont un caractère civil et que les armes ou les hommes en armes ne doivent pas rentrer.
Aujourd'hui, que fait concrètement le HCR dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans les sites des déplacés?
Dans un site, il y a de nombreux besoins en termes d'eau, de nombreux besoins en termes de latrines, les besoins en termes de bâches, je dis les plus importants. On est intervenu de nombreuses fois et en grande partie sur certains aspects, dont les abris. On en a construit à peu près 40 000 ces deux dernières années. L'UAC a beaucoup travaillé avec AOEM sur les questions de coordination des sites. On essaie de coordonner ces sites, d'évaluer ces sites et de les mettre dans un mécanisme de sorte à ce que ces sites aient une gestion normale et aient des activités de réponse de la part des différentes organisations. On élargit la couverture de nos programmes de protection de sorte à faire une évaluation des questions d'incidents de protection envers la population civile ou bien envers les personnes déplacées.
Denis Oulaye, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Goyi, coordonnée par Pierrot et la Meji, sous la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci de nous avoir suivis.